Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Célier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue, c'est parti pour deux heures d'infos avec vous. Et à la une, cette mort brutale qui secoue toujours le monde de la cuisine. Mohamed Cheikh, le dernier gagnant de Top Chef, sera notre invité de 18h15. Il va rendre hommage à son copain Antoine Aleno, 24 ans, fils du chef étoilé Yannick Aleno. Un jeune homme tué par un chauffard, un voleur de voiture alcoolisé il y a 3 jours. Chauffard qui devrait être rapidement mis en examen. Les autres titres de la Actu maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Alexandre de Saint-Aignan.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À partir de lundi prochain, fini le masque dans les trains, les transports en commun. C'est l'une des dernières restrictions en vigueur contre le Covid. Dans ce journal également, le dernier conseil des ministres de Jean Castex. La première journée d'épreuve pour les futurs bacheliers. Et puis, c'est la tendance. On a testé pour vous une formation pour piloter un scooter électrique. Les courses à Fontainebleau, il fallait jouer le 10, le 6, le 5, le 8 et le 14.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL, le plus gros diamant blanc du monde vendu aux enchères, The Rock, c'est son surnom, plus de 21 millions d'euros. Comment ces pierres sont repérées, extraites, qui les achète? On va tout vous expliquer. 18h40, on va défaire le monde. L'actu autrement avec Cyprien Signy et la Joyeuse Bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu s'il vous plaît.
Ce soir, éducation nationale recherche bon prof de maths et d'allemand, désespérément. Il y a des postes à pourvoir, mais pas assez de candidats au niveau. On vous dévoile les coulisses des résultats inquiétants du CAPES 2022. C'est l'examen pour devenir prof. Au menu également, Didier Raoult qui se reconvertit dans l'astrologie, figurez-vous, et des bactéries qui nous éclairent.
À 19h15, on va refaire le monde, débattre avec Éric Brunet et avec les polémistes. Et puis la météo tout au long de l'émission avec Claire Delorme. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance pour demain?
Eh bien, une nette baisse des températures par rapport aux 30 degrés qu'on a connus cet après-midi, mais au prix des orages.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier.
Alexandre de Saint-Aignan.
Une dernière surprise avant de faire ses cartons comme chacun de ses collègues. À l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a pris la parole.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais être bref et synthétique pour vous dire qu'à partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé.
Voilà, ça concerne évidemment le bus, le train, l'avion, les taxis et bien sûr dans le métro à partir de lundi prochain. Fin du port du masque obligatoire. C'était l'une des dernières restrictions en vigueur pour lutter contre l'épidémie. Un soulagement pour certains voyageurs du métro parisien, Clément Terra.
Oui, et au milieu de ces usagers qui portent le masque sur le nez, parfois en dessous, il y a cette femme qui, elle, a déjà décidé de ne plus le mettre.
Enfin la liberté. Avant, vous ne voyez pas qu'il y avait le sourire. Maintenant, on se revoit. Et oui, c'est la vie.
D'autres qui comptent respecter les mesures jusqu'au bout se réjouissent de pouvoir l'enlever dès lundi.
Non, je ne peux plus les porter. J'ai préféré arrêter même parce qu'il y a la chaleur et tout, ça ne vaut pas le coup. Quoi. On n'arrive pas à respirer. Et là, il y a beaucoup de monde et ça ne me fait pas peur du tout.
Même si aux heures de pointe, au moment où la foule est dense, certains assurent qu'ils garderont le masque.
Peut-être que quand on serait vraiment collé, qu'il y a des problèmes de métro, qu'on est les uns sur les autres, je le remettrai. Mais en tout cas, on a la liberté de pouvoir revivre comme avant.
Liberté de le garder également, c'est le choix de se retraiter muni d'un masque FFP2.
Je vais le conserver parce que je pense quand même que le Covid va encore circuler et qu'à mon âge, 72 ans, j'ai pas envie de l'attraper. Uniquement dans les endroits où il y a de la foule, les transports, les grands magasins.
C'est d'ailleurs ce qu'a recommandé le ministre de la Santé, Olivier Véran, à la sortie du Conseil des ministres.
Un reportage de Clément Terra pour RTL et notez que dans la foulée, l'Union européenne annonce à son tour que le masque ne sera plus obligatoire dans tous les avions et dans les aéroports en Europe à partir également de lundi prochain.
Alors à l'Elysée, tout à l'heure, c'était l'heure des derniers merci, l'heure des derniers selfies aussi.
Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
C'est l'ultime conseil des ministres de Jean Castex. Emmanuel Macron a rendu un hommage solennel à son Premier ministre.
Oui, Jean Castex, superstar. Les ministres comme Bruno Le Maire ont fait des photos, des selfies avec lui et le président lui a donc rendu cet hommage appuyé. Emmanuel Macron le regardait comme un frère. Je cite là un ministre pour lui dire son affection et la fierté d'avoir traversé 2 ans de crise à ses côtés. Jean Castex qui ne veut pas rempiler, on l'a évoqué un temps comme futur garde des Sceaux, lui veut des vacances en famille avant de réfléchir à d'autres fonctions et la leur est à l'apéro. Pot de départ en ce moment avec le personnel de Matignon et un autre cocktail demain soir dans les jardins de Matignon là aussi où sont conviés tous les ministres et leurs conjoints.
Vous êtes bien renseigné sur les les apéritifs, William, on le note. On ne sait toujours pas qui va remplacer la superstar Castex.
Hein. Là, on est beaucoup moins bien renseigné, mais on sait par contre que sa démission devrait intervenir vendredi ou samedi. Ensuite, logiquement, mais tout n'est pas toujours logique en Macronie, logiquement, son successeur sera connu dans la foulée, le temps de constituer le gouvernement, le temps que tout le monde soit scanné par la Haute Autorité pour la Transparence. Et l'idée, si les timings sont tenus, c'est de faire un premier Conseil des ministres avec la nouvelle équipe dès mercredi prochain.
William Galibert pour RTL.
RTL Soir.
Alors, on va en reparler hein, juste après ce journal avec le top chef Mohamed Cheikh, proche d'Antoine Aleno. Antoine Aleno, tué dimanche dernier par un chauffard à Paris. Chauffard actuellement dans le bureau du juge.
Ce jeune homme de 25 ans conduisait une voiture volée dimanche soir en état d'ivresse avec un permis annulé quand il a percuté le scooter du fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Le chauffard devrait être mis en examen dans les prochaines heures.
Oui, cela laisse peu de doute. C'est cet homme qui a tenté de s'enfuir à pied dimanche soir après avoir provoqué l'accident mortel. Il a finalement été interpellé quasi immédiatement par un policier hors service qui se trouvait à proximité. Tout l'accable. Il devrait donc être mis en examen pour homicide et blessures involontaires avec trois circonstances aggravantes. Conduite en état d'ivresse, conduite malgré l'annulation de son permis et délit de fuite. Pour cela, il risque jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende. Il sera également poursuivi pour le vol du véhicule de luxe puisque c'est bien avec une voiture volée un peu plus tôt dans la soirée qu'il conduisait à pleine vitesse au moment de l'accident.
Alice Moreno du service police-justice de RTL.
Cette info RTL maintenant du nouveau dans l'affaire Jubilard. La voiture de l'infirmière a bien été déplacée la nuit de sa disparition. En tout cas, c'est ce qu'affirment les voisins du couple. Tous les détails dans le journal de 19h sur RTL tout à l'heure.
À Marseille, un homme abattu par la police en pleine zone commerciale aujourd'hui, armé d'un couteau. Il se serait précipité sur les policiers avec un comportement menaçant. C'est ce qu'affirment les forces de l'ordre. Aucune victime à déplorer en dehors de l'auteur de l'agression. Une enquête a notamment été ouverte par l'IGPN, la police des polices.
Dans un instant, levez les stylos et rendez les copies. Première journée d'épreuve du bac version 2022. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h08, la suite de votre journal dans RTL Soir. Après deux années d'épreuves chamboulées par la pandémie, le grand retour des épreuves écrites du baccalauréat.
520 000 lycéens concernés, des élèves de terminale qui ont passé les épreuves de spécialité aujourd'hui. Par exemple, Lucas, au lycée Kléber de Strasbourg. Et pour lui, la géopolitique, c'est du tout cuit.
Le sujet, très facile, pareil. On avait une disserte sur l'environnement et les États-Unis. À ces données. Finalement, quand on nous parle de ça toute l'année en cours, c'est plus facile quoi à la fin. Et l'étude de doc, c'était sur les différentes formes de la guerre et les évolutions, voilà. Bah, c'est facile aussi. Moi, Géopo, c'est une matière que j'adore. Je ne venais pas stressé. Par rapport à ma deuxième spé, je viens pas du tout stressé quoi.
C'est-à-dire, c'est quoi la deuxième spé ?
Littérature anglaise. Si vous ne me voyez pas demain, c'est normal.
Donc tu vas encore réviser ce soir, c'est ça ?
Non, je vais faire mon testament. Pour l'anecdote, je l'avais choisi pour apprendre à parler anglais. Donc c'est-à-dire qu'arriver au bac en n'ayant pas beaucoup de bases en anglais pour faire une épreuve en anglais, c'est... Faites pas comme moi.
Voilà le propos recueilli par Yannick Collant pour RTL.
Alors, pendant que les lycéens planchaient sur leurs copies, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressait aux futures élites, en tout cas des étudiants français.
800 étudiants venus de plusieurs écoles rassemblés dans l'amphithéâtre de Sciences Po à Paris depuis le début de l'invasion russe qui en est à son 77e jour. C'est la première fois que le président ukrainien échangeait avec des étudiants, Nerissa Emani.
Oui, sur un écran géant, Volodymyr Zelensky apparaît. Il est assis derrière son bureau et répond avec précision aux questions de 5 jeunes debout dans l'amphithéâtre, dont celle de Victor, étudiant à Polytechnique.
C'est vraiment un grand honneur de vous parler. Comment envisagez-vous la fin de la guerre et d'éventuels accords avec la Russie ?
Lorsque nous récupérerons tout ce qui nous appartient, nous finirons cette guerre. Je suis absolument persuadé que si l'Ukraine avait été admise à l'OTAN, il n'y aurait pas eu de guerre.
L'Europe, l'OTAN, les réfugiés, autant de thèmes évoqués par le président ukrainien pendant une heure. À la sortie, ces trois étudiants à Sciences Po sont impressionnés.
On a vu littéralement un homme qui veut transmettre ses émotions à des étudiants, alors qu'il sait que malheureusement des étudiants n'ont aucun pouvoir politique pour l'instant du moins.
Il a vraiment essayé d'avoir un dialogue bilatéral avec nous. C'est peut-être assez travaillé et il sait quel effet ça fait, mais ça marche.
Puis cette étudiante répète une phrase de Volodymyr Zelensky qui l'a marqué. « Je ne suis pas plus courageux que les autres présidents, je suis juste plus jeune ».
Le reportage signé Nerissa Emani pour RTL.
On termine avec l'une des tendances du moment sur la route, les deux roues électriques.
Entre le prix du carburant qui augmente et les inquiétudes pour la planète, l'électrique se développe pour les voitures et pas seulement. Bonsoir Christophe Bourreau.
Bonsoir.
Alors preuve de cette tendance, pour la première fois en France, une formation spécialement dédiée aux scooters électriques va commencer demain en région parisienne. Et vous ? Vous avez pu la tester en avant-première.
Et à mes côtés, l'ancien champion de moto, Philippe Monneret, à la tête de cette formation. Formation qui commence par une prise en main du scooter, plutôt déconcertante, quand on est habitué au son du bon vieux de roue thermique.
Je mets le contact, voilà.
Là, il se passe rien. Ah si, ça s'allume.
Ouais, ça s'allume.
Mais alors, le silence est total. C'est monacal.
Et alors, on a quand même son affichage de batterie. Ça, c'est important de le regarder. 73%.
Ouais. J'ai 73%.
Pour combien d'autonomie ?
55 km d'autonomie.
Voilà.
Ouais, ce qui est en ville est parfait. Voilà, c'est parfait, mais attention au démarrage. Ah non, mais c'est super rapide, je vais trop vite là, non ?
Il faut faire attention parce qu'on ne se rend pas compte, justement, avec l'électrique, de la vitesse qu'on prend. Ça accélère. Hein,
tout ah, mais c'est carrément, c'est une fusée, votre truc.
La puissance est là. Petit temps d'adaptation, même si on passe du thermique à l'électrique, il faut un petit temps d'adaptation parce qu'il y a beaucoup plus de puissance en bas, tout de suite, disponible.
Alors, comme on dit, hein, pardonnez-moi l'expression, mais ça envoie, maîtriser sa vitesse. Et autre point important que l'on vous apprend dans cette formation, vraiment à faire attention aux piétons. Là, j'évite un piéton qui m'a absolument pas vu arriver, donc un petit coup de klaxon. Et c'est le paradoxe avec l'électrique, il faut finalement faire du bruit.
Bon alors cette formation pour conduire un scooter électrique, c'est plus cher qu'une formation
classique ? Non, c'est le même tarif, comptez 250 euros la journée en sachant que vous avez besoin au final de 7 heures de formation.
Christophe Bourreau pour RTL. Du football ce soir avec des matchs en retard de la 36e journée de Ligue 1, Nice contre Saint-Etienne à 19h et puis Nantes face à Rennes, le derby à partir de 21h.
Merci beaucoup Alexandre, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Claire, ça se gâte un peu. Petit peu, c'est ça, les températures vont redescendre. Remarque, il faisait très très chaud aujourd'hui.
Alors,
trop chaud.
Il faisait très chaud, on a dépassé les 32 degrés quand même dans certaines villes, notamment à Auch et localement aussi en Bourgogne, donc ce n'est quand même pas rien pour un mois de mai. Par contre, en effet, là, les températures vont baisser et ceci en raison d'une dégradation orageuse. Mais bon, rien de bien méchant, ça sera surtout des orages assez isolés. Donc les températures, elles resteront quand même légèrement au-dessus des normales de saison. En matinée, il faudra quand même compter entre 6 et 12 degrés vers le quart nord-ouest et puis partout ailleurs entre 11 et 16 degrés. Et dans l'après-midi, par contre, il fera jusqu'à 19 degrés près de la Manche, 20 à 25 degrés sur le reste de la moitié nord et tout de même encore jusqu'à 28 degrés en direction du sud. Et donc ces orages, ils seront surtout présents en matinée, donc de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le Massif central. Ils auront tendance à progresser au fil des heures vers la Bourgogne, jusque vers la Franche-Comté. Donc ça sera surtout des orages isolés mais accompagnés d'averses qui pourraient être un petit peu plus marquées. Sinon partout ailleurs, surtout au nord de cette perturbation, donc du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers les frontières du Benelux, on aura un ciel qui reste au sec, mais quand même très voilé dense, donc ça sera quand même assez laiteux. Et donc on aura davantage d'éclaircies, en tout cas près de la Méditerranée, à l'exception de la matinée où on pourra avoir quand même quelques grisailles un petit peu variables long des littoraux.
Merci beaucoup Claire.
La brigade RTL soir.
Et ce soir, cette brigade RTL scintille.
Diamonds are forever.
The Rock, le plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères, a été vendu cet après-midi. 21 millions d'euros en Suisse, une pierre de 228 carats, rien que ça. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il ressemble à quoi, The Rock ?
Alors vous l'avez dit, hein, c'est un diamant blanc, c'est-à-dire en réalité incolore, transparent. Il pèse un peu plus de 60 grammes. Il a la hauteur d'une balle de golf, hein, c'est-à-dire un peu plus de 5 cm. Et ce qui le rend exceptionnel, c'est sa symétrie. C'est-à-dire, si vous le regardez de profil, il a une belle forme de poire, bien bombée. Et jusqu'à aujourd'hui, il était la propriété d'un riche nord-américain. Et il était porté sur un collier Cartier.
Et des pierres comme celle-ci, est-ce que c'est rare ? On les trouve où ? Et surtout, on les trouve comment ?
Alors oui, c'est rare. Hein. Les experts disent qu'il n'en existe qu'une poignée. Le dernier très gros diamant découvert, c'était l'année dernière au Botswana. Il faisait 1758 carats, 350 grammes. Ah oui. Mais attention, c'est le poids brut avant qu'il soit taillé. Alors ces diamants, on les trouve dans des mines. Les pays producteurs sont la Russie. Elle représente 40% de la production mondiale. Une des plus grandes mines du monde se trouve en Sibérie. Elle fait 1,2 km de diamètre. Les autres pays producteurs, c'est le Canada, l'Australie, certains pays d'Afrique, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Botswana ou l'Afrique du Sud, d'où venait The Rock. Et à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie, eh bien, les prix grimpent terriblement en ce moment.
Tout augmente, ma pauvre Sophie.
Ouais, on parlait pas.
Qui achète de telles pierres, justement ?
Écoutez, on va enfoncer une porte ouverte, ni vous ni moi, plutôt des gens assez fortunés.
Mais qu'est-ce que vous connaissez de mes finances ?
C'est vrai, des joailliers parfois et surtout de très très riches familles. Le plus gros diamant du monde, c'est le Golden Jubilee, plus de 500 carats. Il est la propriété du roi de Thaïlande, il l'a fait monter sur sa couronne. Autre gros diamant, le Cullinan, il a été lui découvert en 1905 dans une mine d'Afrique du Sud. Il a été envoyé en Europe par la poste, dans une simple boîte à biscuits. Et aujourd'hui, vous savez où il se trouve ?
Non.
Sur le sceptre de la reine d'Angleterre.
Ah, très bien. Les explications de la Brigade RTL. Merci beaucoup. Sophie Jousselin, courte pause. Et ensuite, un témoignage très fort sur RTL. Celui de Mohamed Cheikh, le gagnant de Top Chef, le dernier gagnant de Top Chef. Rend hommage à son copain Antoine Aleno, 24 ans, fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno, et tué par un chauffard, un voleur de voiture. C'était il y a 3 jours. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez toujours RTL et ce soir et maintenant un témoignage, un hommage après la mort brutale d'Antoine Aleno, 24 ans, le fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno. Le jeune homme, et on en a beaucoup parlé ces derniers jours sur cette antenne, a été tué par un chauffard, c'était dimanche soir à Paris. Antoine était sur son scooter au feu rouge, le chauffard venait lui de voler un bolide. Depuis, c'est tout le monde de la cuisine, de la gastronomie qui est sous le choc parce qu'Antoine, c'était aussi une étoile montante du milieu. Bonsoir Mohamed Cheikh.
Bonsoir.
Vous êtes le dernier gagnant de Top Chef sur M6, Top Chef qui rendra hommage ce soir dans son émission à Antoine. Et vous aviez travaillé avec lui ces dernières semaines sur un nouveau projet. On imagine que vous avez été abasourdi en apprenant cette nouvelle.
Ouais, bien sûr. Je pense que quand on voit les circonstances qui ont eu pour son décès, qui sont atroces, ça rend encore plus difficile l'acceptation. Moi, c'est vrai que j'ai fait partie des dernières personnes peut-être à l'avoir fréquenté. Enfin, c'est mon père, moi, qui m'a appelé le matin parce qu'il sait que j'ai une affinité particulière avec le chef Yannick Aleno. Et en plus, j'étais en moto à ce moment-là et je lui dis, attends, je comprends rien. J'avais entendu et compris ce qu'il me disait, mais j'ai préféré pas comprendre, quoi. Donc quand je l'ai rappelé, il m'a confirmé le propos et moi j'ai appelé un ami qui travaille avec eux depuis de longues années, ouais. Qui a répondu au téléphone, finalement j'ai compris tout de suite que c'était la confirmation de ce qu'on m'avait dit.
Au ton de sa voix, vous avez compris.
Ouais, bien sûr, bien sûr. En cuisine, en restauration, on est des gens assez joviales, si vous voulez, quand quelqu'un décroche de manière bien différente, on le sent tout de suite. Et voilà, et moi ce que je suis choqué, marqué, triste, tout ce qui s'ensuit, il n'y a même pas de mots je pense pour décrire tout ça, et j'ai vraiment beaucoup d'empathie, de compassion pour la tragédie qui est arrivée, et je transmets encore une fois mes condoléances à la famille avec tout mon soutien.
Il y a de la douleur, mais on a l'impression qu'il y a aussi de la colère, Mohamed, parce que comme vous l'avez dit, les circonstances du drame sont terribles. Ce chauffard venait de voler une voiture, on apprend qu'il n'avait pas de permis, qu'il conduisait alcoolisé.
C'est pas normal, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est pas normal. Moi j'ai déjà dans le passé perdu un ami, on avait 14 ans, décédé sur un passage piéton, qui est décédé devant moi par un véhicule aussi, et ça m'a rappelé de méchants souvenirs. Et voilà, je pense que quand on est arrêté rouge en respectant la loi et le code de la route et qu'on veut tout simplement rentrer chez soi après une bonne journée de travail, en fait, on doit pas risquer sa vie. On doit pas risquer sa vie et faut que ça cesse, en fait. On voit tous les jours à la télé, dans les reportages et même dans la réalité que de plus en plus l'alcoolémie au volant ou de course-poursuite, faut pas que ça se reproduise. Antoine, il avait 24 ans, un jeune plein d'envie et d'espoir, une famille qui l'aimait beaucoup, enfin, il avait tout pour lui. Et moi, tout de suite, j'ai pensé à son joli visage souriant des derniers jours où je l'ai vu, et Enfin, c'est quelque chose de très fort, quoi.
Vous parlez de ce visage souriant. Le grand public aujourd'hui découvre ce visage souriant parce que son papa était très connu, mais lui débutait vraiment dans le métier. C'était la nouvelle génération, Antoine. Racontez-nous, c'était qui Antoine ? Parce que vous nous avez dit, j'étais une des dernières personnes quelque part à le côtoyer, à travailler avec lui. C'était un sourire, c'était beaucoup de motivation aussi.
C'est vrai que je l'ai côtoyé plutôt souvent ces dernières semaines parce qu'on a partagé un projet ensemble, donc dans un des restaurants de Yannick Aleno qui s'appelle Burger Père et Fils. Et donc Antoine était le chef des lieux. Et donc on a réalisé une recette ensemble qui a duré un certain temps. Et bah moi je suis jeune aussi, mais c'est vrai que Antoine c'était génération encore en dessous de moi. Et ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça motivés et ambitieux. Et moi quand j'ai vu déjà qu'il avait mis un point d'honneur à respecter ce que j'avais voulu faire, etc., qu'il était super content du partenariat, qu'à chaque fois que je venais il m'accueillait plus que comme un roi, qu'il m'avait d'ailleurs invité à partager un match de foot il n'y a pas longtemps, enfin c'est...
Il était voilà, généreux.
C'est... Ouais, une belle personne à l'effigie de toute sa famille. Et voilà, je pense qu'il y a des gens qui font de mal à personne, qui n'ont rien demandé. Enfin, personne ne mérite une mort comme ça, de toute manière, je pense.
Et il voulait tracer son chemin, Antoine. Il ne comptait pas sur la notoriété de son papa.
Non, c'est ce qui est bien, c'est que je pense que ça doit être difficile d'être le fils d'un grand chef comme Yannick Aleno. Ça ne doit pas être facile parce qu'au final, il faut se faire sa place en son propre nom. Et lui, il avait commencé à savoir le faire. Et il vantait vraiment le fait d'être le fils de Yannick Aleno. Il est vraiment à sa place, vraiment très réservé, très toujours bien apprêté, très respectueux, très doux, enfin une belle personne, quoi.
Merci Mohamed Cheikh, en tout cas, de lui avoir rendu hommage ce soir à Antoine Aleno, vous le dernier gagnant de Top Chef sur M6. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous ce soir sur RTL, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et on rappelle que l'émission de ce soir, Top Chef sur M6, sera dédiée à Antoine. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur RTL.
Merci.
Retrouvez ce témoignage sur l'appli RTL.
Et RTL Soir revient dans un instant avec vos dessous de l'actu. Tout d'abord, les dessous du premier jour du bac nouvelle version. On va vous emmener dans un lycée. Et puis, laissez-vous tenter dernière. Là, on va partir au Cap, en Afrique du Sud, dans l'une des villes les plus dangereuses du monde. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL et bientôt 18h30.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Si vous nous rejoignez, c'est l'heure où chaque soir, on vous rappelle les trois grands titres de l'actualité. C'est Alexandre de Saint-Aignan qui s'en charge.
Les passagers bientôt démasqués dans les trains, les avions, les cars. Le gouvernement annonce la fin du masque obligatoire dans les transports en commun à partir de lundi prochain. Masque également facultatif dans tous les aéroports et les avions en Europe dès lundi. Information RTL dans l'affaire Jubilard. Un détail qui semble être un indice. Les voisins du couple confirment que la voiture de la jeune infirmière a changé de sens durant la nuit de sa disparition. Et puis deux matchs de foot au programme. Ce soir, Nice contre Saint-Etienne. Coup d'envoi dans une demi-heure. Un match scruté par les supporters girondins. Si Saint-Etienne gagne, Bordeaux sera relégué en Ligue 2. Deuxième match de la soirée, Nantes face à Rennes à 21h.
Merci Alexandre. Le temps pour demain, Claire, après le coup de chaud aujourd'hui, ça se dégrade un petit peu.
Enfin, des températures qui baissent, mais on restera quand même au-dessus des normales avec 25 degrés l'après-midi pour la moitié nord et 28 degrés pour la moitié sud. Avec une dégradation en effet orageuse allant de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Jura tout au long de la journée. Partout ailleurs, ça reste au sec.
Merci Claire.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir du premier jour du bac 2022. Coup d'envoi avec les épreuves de spécialité. Alors ça c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Les élèves les ont choisis et COEF 16 quand même. Autant dire qu'elles sont capitales. Oui, je vous vois écarquiller les yeux ici en studio. Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
Alors, vous avez passé la journée dans un établissement qui accueillait ces épreuves, le lycée Montaigne de Lambe, c'est à Amiens, dans la Somme, et vous y avez fatalement croisé quelques lycéens tremblotants.
Ah oui, comme pour les éditions précédentes du bac, hein, ça ne change pas. On croise, juste avant l'épreuve, des élèves qui ont encore en main...
Bah, mes fiches de révision.
C'est pour se rassurer.
Ouais, voilà.
J'ai un cours, j'espère vraiment pas tomber dessus. Ouais.
C'est un examen important, faut pas se louper, quoi.
On est maintenant juste en face d'une salle d'examen avec Stacy.
Ce matin, c'était le stress. J'ai regardé des séries, mais j'étais quand même stressée en les regardant. Là, c'est l'épreuve Histoire des Arts. J'ai l'impression qu'en gros, on est les testeurs, quoi. Et on ne sait pas comment ça va se passer, comment s'ils vont être indulgents ou pas.
L'heure fatidique approche, tout le monde s'installe.
Ta convocation, ta carte d'identité. Pas de trousse.
Tout en majuscule.
Et là, pour les prénoms, j'espace d'une case.
Ok. Numéro du candidat, tu reprends, il est ici.
Des consignes pour bien remplir l'entête parce que ce soir, les copies seront scannées.
Respire.
Les profs ont des mots d'encouragement.
Tout va bien se passer.
Tout le monde a un sujet.
C'est le proviseur, Patrice Pertin.
Alors vous y allez, c'est parti pour 4 heures.
Et alors, une fois sorti, ça va mieux ?
Alors ça dépend. Il y a Justine en sciences économiques et sociales, sortie au bout d'une heure.
On a fait comme on a pu, mais ça aurait pu être mieux. C'était sur l'engagement politique et la structure sociale. Il y avait des trucs que j'avais oubliés, donc c'était pas top, quoi. Mais ça va le faire, on y croit.
Et pour Lorenzo, bah, c'était les maths.
Ça allait, il y avait deux exercices faciles. Après, les deux autres, plus compliqués. Des probabilités et un QCM avec plusieurs choses qu'on a vues dans l'année. Les bacs blancs étaient beaucoup plus durs.
Vous le sentez plutôt bien ?
Ça va.
Alors, il faut se relancer pour demain après-midi et l'épreuve écrite de leur deuxième spécialité.
J'aime bien le « ça va ». Marie, un petit peu plus tôt, que les copies allaient être numérisées, scannées. Qu'est-ce que ça signifie ?
Mais parce que la correction ne se fait pas sur copie papier. Le scanner tourne, là, déjà actuellement dans le lycée. Les copies sont rendues anonymes, brassées dans un serveur informatique et transmises aux correcteurs qui vont travailler sur écran. Cette correction dématérialisée était testée depuis plusieurs années et cette fois, elle est généralisée.
Les dessous du premier jour du bac à Amiens, ça rappelle quelques souvenirs de stress. Merci beaucoup Marie Garrier et bon courage à tous les lycéens.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h33.
Laissez-vous tenter dernière.
Effectivement, place à Laissez-vous tenter dernière. Vous connaissez le principe, tous les soirs à cette heure-ci, la bande de LVT vous livre quelques bons conseils. Alors ça peut être des bouquins, un film au ciné, une musique à écouter. Ou alors une émission télé, des bons conseils pour occuper vos soirées. C'est télé ce soir avec Isabelle Morini-Bosque qui est avec nous en studio. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir tout le monde.
Vous nous conseillez sur la télécommande d'appuyer sur la touche 9, W9, avec une émission assez fascinante qui est présentée par quelqu'un qu'on aime beaucoup ici parce que c'est l'homme qui réveille tous les auditeurs tous les week-ends sur RTL, c'est Stéphane Carpentier. Frisson garanti, c'est ça sur W9 ?
Ah oui, je crois que le terme est aussi juste que justifié. Vous allez comprendre pourquoi en écoutant notre Stéphane Carpentier. À tout bonus, beau produit d'appel, de cet excellent reportage de la collection documentaire de W9 qui s'appelle « Les villes les plus dangereuses du monde ». C'est presque un mode d'emploi. Cap ce soir, et bien justement sur le Cap. Ville effectivement à haut risque où riches et pauvres ne se mélangent que pour s'entretuer. Écoutez.
Le Cap, la ville la plus dangereuse d'Afrique. Les fusillades sont quotidiennes. Près de 1500 morts entre janvier et juin 2020. Les gangs terrorisent les habitants du centre-ville qui doivent s'armer pour se défendre.
Au moins 4 morts ce matin dans les rues du Cap. On a une fusillade signalée.
Les gars, vous me recevez ? On y va. Mettez vos gilets pare-balles.
J'ai été si impressionné que j'ai voulu en savoir plus en joignant aux États-Unis Gary Grebley, l'auteur de ce reportage qui aurait pu être le dernier.
J'ai tourné en juillet sur une vingtaine de jours pendant toute une période d'émeutes en Afrique du Sud, dans un contexte post-Covid très compliqué à gérer pour le pays. C'est la ville qui rassemble le plus de contrastes et le plus d'inégalités. Ça saute aux yeux dès qu'on sort de l'aéroport d'ailleurs.
Et donc il y a des gangs de chauffeurs de taxi qui s'opposent les uns aux autres.
Ouais, tout à fait. Pour des contrôles de territoire, le Cap fonctionne grâce à la main-d'œuvre des travailleurs qui habitent dans ces bidonvilles. Et donc tous les jours, des millions de travailleurs empruntent ces chemins pour aller au centre-ville. Donc ils payent la moitié d'un euro. Ça fait beaucoup d'argent. Donc les gangs luttent pour obtenir ces territoires. Et on est toujours sur ses gardes quand on fait ce genre de tournage, puisque les situations peuvent dégénérer très très rapidement. Et c'est pour ça qu'on les fait toujours accompagner d'un local qui peut sentir les choses peut-être avant nous. Le pire moment, je dirais, c'est quand je suis embarqué via la force du gang qui part en expédition punitive. Et là, on sent une espèce d'élan mortifère où les choses peuvent dégénérer très loin.
Et vous verrez, un moment, on franchit effectivement un cap, forcément.
Et donc, il faut se brancher ce soir sur W9, le Cap en Afrique du Sud, l'une des villes les plus dangereuses du monde, avec Stéphane Carpentier, réalisé donc par Gary Grebley. Merci beaucoup du conseil, chère Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, RTL Soir va se poursuivre. On va défaire le monde.
Oui.
Cyprien Signy vient de s'installer en studio. Céline Landreau également. Laurent Tessier sur sa petite chaise tout au bout de la salle.
Les sages.
Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors,
après le bac il y a quelques minutes, tiens, on va défaire un autre concours juste après la pause. On va défaire le CAPES avec ces questions en quelque sorte. Est-ce qu'on se dirige vers une pénurie de profs ? Et surtout, pourquoi le niveau baisse d'année en année ? A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.